a déjà 4 minutes de retard. Il ne faut pas non plus le faire attendre trop longtemps. Je pense pas qu'il s'impatiente, mais quand même, il vaut le respect d'être à l'heure. Monsieur Reichmann, bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour, monsieur Trépanier. Je vais très bien et je vois à votre ton que vous allez très bien aussi.
Oui, oui, toujours aussi. Oui, vous avez. Vous êtes perspicace.
Moins deux sur cette terre.
Ah oui, tout à fait. Rapidement, je tombe dans le feu de l'action concernant Ségolène Royal. Les renseignements généraux disent carrément qu'elle ne ferait pas le premier tour.
Alors, oui, là, il y a des bruits qui courent à ce sujet.
Mais oui.
Alors, mais vous savez, il faut se méfier à la fois des renseignements généraux et des sondages. Ils se sont très souvent trompés. Cela dit, il y a quand même une grande probabilité qu'elle n'y soit pas, pour des raisons qui tiennent à sa personnalité et au vide de sa campagne et au recul général des socialistes, enfin de la gauche en général. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'elle s'est décernée à elle-même un brevet de compétence internationale. Elle a dit « Je suis compétente en matière internationale ». Alors, évidemment, il aurait mieux valu que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. J'aurais été peut-être un peu moins immodeste. Et d'autre part, elle m'a fait penser à ce sketch, pardon, de Fernand Reynaud.
Oui.
Il jouait un douanier, il disait « Mais je peux pas être idiot, je suis douanier. Je peux pas être idiote, je suis candidate.
Oui. » Voilà.
Et l'hypothèse d'une absence de Ségolène Royal au deuxième tour est loin d'être improbable.
Ah oui?
D'abord parce que les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais enfin, ils donnent quand même un pointage qui n'est pas totalement dénué d'intérêt. Donc, il semble bien que M. Bayrou soit assez proche d'elle. Vous savez, la différence qu'il y a entre eux, d'après les sondages, est de l'ordre de 3 ou 4 points. Or, 3 ou 4 points dans les sondages, c'est ce qu'on appelle la marge d'erreur. Donc, les instituts de sondage font toujours la même chose. Ça leur permet à eux, d'une part, de susciter de l'intérêt. Ça permet aux journaux de faire des titres qui allègent le public. Alors, ils disent « Ségolène Royal remonte » ou « Ségolène Royal baisse »,« Sarkozy se maintient » ou « Il baisse »,« Bayrou stagne ». Bon, en réalité, pour ne pas être démenti, les sondeurs jouent sur la marge d'erreur. Comme ça, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir truqué les chiffres ou d'avoir été incompétent.
Et j'ai remarqué aussi que là, Mme Royal accuse l'UMP de négocier avec le FN. Là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette...
Eh bien, il y a toute une série d'éléments qui prouvent...
Ah oui?
Non pas qu'il y ait forcément une négociation, mais en tout cas, il est certain que maintenant c'est quasi officiel... que le nombre de signatures qui manquaient à Jean-Marie Le Pen a été débloqué sur ordre de Sarkozy.
Hein?
Ah oui, ça c'est quasiment admis.
Oh!
Oui. Et parce que Sarkozy ne souhaitait évidemment pas beaucoup de bien à Jean-Marie Le Pen, mais le problème c'est que dans le cas où Jean-Marie Le Pen aurait été absent de l'élection, ses électeurs auraient eu tendance à se venger sur Sarkozy, dont ils savaient très bien qu'il était le principal obstacle à ses signatures, et donc Sarkozy a considéré qu'il était plus prudent pour lui de lâcher une centaine de signatures, et ça s'est fait exactement il y a une quinzaine de jours, à peu près, juste quelques jours, une semaine avant la date limite de dépôt des candidatures, et ça a été très très amusant parce que le soir même de son meeting de Lyon, le jour même de son meeting de Lyon, Jean-Marie Le Pen arborait un grand sourire et disait qu'il était nettement plus confiant pour les signatures, ce qui voulait dire qu'un déblocage avait eu lieu.
Ça
c'est une première chose.
Okay.
La deuxième chose, c'est que M. Hortefeux, qui est le bras droit de M. Sarkozy, si bien que M. Sarkozy a deux bras droits, le sien et M. Hortefeux, vous voyez, c'est quand même intéressant.
Oui.
C'est agréable d'avoir deux bras, quoi, parce que ça vous permet quand même à la fois de distribuer des claques et de tendre la main pour faire le vote.
C'est ça, exactement.
Et donc, M. Hortefeu a indiqué, au cours de la conférence de presse, je crois, qu'il serait peut-être souhaitable d'introduire de la proportionnelle dans le système électoral français, ce qui est depuis longtemps une revendication, notamment du Front National, mais aussi des Verts. Et c'est effectivement un geste qui n'est pas du tout douteux, quoi. Il est clair que c'est un geste destiné à se concilier les voix du Front National. Monsieur Le Pen lui a d'ailleurs répondu qu'il s'agit de l'aumône qu'on fait à la fin de la campagne pour essayer de s'attirer les bonnes grâces, parce que la proposition de Monsieur Hortefeux, qui a été qualifiée par l'entourage de Sarkozy de proposition personnelle, mais enfin tout le monde sait qu'il ne s'est pas lancé sur ce terrain sans avoir l'aval de Sarkozy,
oui.
c'est simplement destiné à permettre à un certain nombre d'électeurs du Front National de rester sur Sarkozy et non pas d'aller sur Le Pen au premier tour. Voilà, c'est une manœuvre électorale. Cela étant dit, il y a une pression très forte actuellement.
Mais ça pourrait lui nuire à Sarkozy là, de faire ça, vous croyez pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est un couteau à deux tranchants, non? Oui,
oui, on peut le dire, oui, parce qu'il y a une partie de l'éditorial du Monde de cet après-midi le dit, qu'il faudrait le combattre dans ces conditions. Mais si c'était vraiment une proposition, mais enfin bon, tout le monde a compris qu'il s'agit réellement de manœuvres de type électoral. Ce qu'il y a de certain également, c'est que la plupart des candidats, en tout cas ceux qui ont une chance d'accéder au deuxième tour, sont favorables à l'introduction d'une dose de proportionnelle. M. Bayrou va même jusqu'à la moitié des députés élus à la proportionnelle. Alors là, M. Hortefeux, lui, ne va pas aussi loin. Mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a un blocage institutionnel en France, parce que il y a toute une série de gens qui ne sont pas représentés au Parlement, et donc cet étouffement démocratique, ou plutôt non démocratique, fait qu'il y a un très mauvais climat politique et qu'on a de plus en plus de mal à gouverner le pays. Donc je ne serais pas surpris que d'une manière ou d'une autre on introduise de la proportionnelle, mais tout va dépendre du résultat de l'élection, parce que si, à mon avis, si Sarkozy était élu, il s'empresserait d'oublier ses promesses.
Je prends une chance de vous demander, M. Reichmann, connaissez-vous l'émission En aparté?
Alors, oui, ça me dit quelque chose. En aparté, attendez, ce n'est pas Pascal Clark qui fait ça, non?
En plein ça, vous avez visé juste, c'est Pascal Clark qui... Est-ce que vous avez sûrement déjà vu le concept de l'émission, comment ça se...
Oui, alors je crois qu'elle n'apparaît pas, me semble-t-il, et des questions sont posées à des invités qui ne la voient pas, c'est ça?
Oui, exactement. On ne la voit jamais en réalité. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux comme ça. Je ne le sais pas.
Peut-être, oui. elle n'est pas spécialement laide, ni spécialement jolie.
Mais là, vous interprétez mes pensées. Je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement.
Mais je suis extra lucide, vous le savez, mon cher Israël.
Exactement, Monsieur Reichmann. Et ce que j'ai trouvé sympathique, c'est que elle a invité Philippe de Villiers, elle a invité Ségolène Royal, elle a invité Jean-Marie Le Pen, Sarkozy. Oui. Sarkozy n'est pas encore allé. Et pourtant, avec Ségolène Royal, c'était palpable, Monsieur Reichmann. C'était gentil, c'était doux, c'était sympathique, c'était très, comment dire, convivial, voilà. Et lorsqu'on tombe avec Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen, mais là, c'est tout à fait différent, ce n'est plus la même dynamique, on essaie de coincer constamment, et je vous jure, je vais vous envoyer par email le montage qui a été conçu, je ne sais pas par qui exactement, mais où est-ce qu'on entend toutes les questions collées qu'elle pose à Jean-Marie Le Pen d'une manière, mais c'est négatif, ça, c'est incroyable.
Vous savez, Pascal Clark est bon, ouvertement à gauche, d'après ce que je crois savoir, et donc, vous savez, il y a actuellement une rivalité entre les différents journalistes pour apparaître beaucoup plus vertueux les uns que les autres, c'est-à-dire d'être tous hostiles à Le Pen. Ça, c'est parfois une agressivité systématique. Elle est un peu moindre en ce moment, quand même.
Ah oui?
Enfin, vous savez, il y a 85% des journalistes français qui sont de gauche. Ça ne donne pas une image tout à fait favorable à l'équilibre démocratique, parce que non seulement ils ont ces convictions, ce qui est leur droit, mais en plus ils les utilisent pour la plupart d'entre eux dans le cadre de leur métier, donc ça donne un résultat qui est totalement qui dénature l'opinion générale, parce que les médias sont là pour exprimer en principe l'opinion du public, en tout cas pour lui permettre d'une part de l'éclairer et d'autre part d'exprimer des points de vue différents. Or là, nous avons des points de vue univoques, on a pratiquement que le politiquement correct, et ça c'est extrêmement négatif, et les gens n'en peuvent plus. Il y a un commentateur qui disait l'autre jour, non sans raison, un type qui a un blog et qui fait des émissions, etc., il disait, les Français ont voté contre la télé de Giscard, ils ont voté ensuite contre la télé de Mitterrand, ils vont voter contre la télé de Chirac et contre la télé de Sarkozy. Et c'est assez vrai finalement, parce qu'on n'en peut plus de cette intoxication médiatique. C'est bien simple, Sarkozy est le meilleur copain de tous ceux qui possèdent des médias. Il s'est fait copain, comme dit l'autre, non sans arrière-pensée. Mais quand vous pensez que pour ne prendre qu'un exemple, ses fils jouent au foot avec les fils de Nicolas Bétou,
qui est
le directeur de la rédaction du Figaro. Il est le meilleur copain d'El Kabach, enfin le meilleur, il n'y a que des meilleurs dans ce cas.
Incroyable, incroyable.
Il est le meilleur copain de Bouygues, enfin c'est bien simple, vous ne pouvez pas avoir une éminence médiatique sans qu'on lui accole le titre d'ami de Sarkozy. Alors évidemment tout ça, ça finit par donner une intoxication médiatique, et ce genre de situation le plus souvent nuit à celui qui croit en être bénéficiaire.
Je sens que
les gens n'en peuvent plus de ce système, et d'ailleurs les gens sont exaspérés même par la campagne, ils en ont ras-le-bol.
Probablement que l'intérêt au niveau des intentions d'aller voter sont à la baisse ou à la hausse.
Non, pas vraiment, mais l'audience des émissions de la campagne faiblit, et manifestement les gens en ont assez. Je lisais même un écho aujourd'hui dans la presse émanant de l'entourage de Sarkozy disant « si seulement il pouvait fermer sa gueule un petit peu parce que...
» C'est bon.
De ce point de vue-là, je serais assez d'accord avec cette personne, bien que nous ne partagions pas le même enthousiasme pour M. Sarkozy, mais il est évident qu'il se tairait un petit peu, ça ferait du bien à tout le monde.
C'est sûr qu'il y a un 100% de crédibilité, là, dorénavant, lorsque je vais lire des articles, que ce soit dans Le Figaro, Le Monde ou encore autres médias, là, concernant Sarkozy, parce que, enfin, je sais pas, même celui que j'ai lu tout à l'heure, concernant que les renseignements généraux ne mettraient pas Ségolène Royal au premier tour, est-ce que ça pourrait être de la manipulation pure et dure?
Au deuxième tour, oui. Non, je pense pas que ce soit de la manipulation.
Peut-on percevoir
ça? Les sondages des renseignements généraux ne sont pas les plus fiables. Bon, il faut se méfier un petit peu. Non pas qu'ils cherchent particulièrement à faire de l'intoxication, mais ils ne pratiquent pas la même méthode que les autres. Les instituts de sondage, en général, on pourrait se dire que c'est plus fiable parce que ce sont des résultats qui remontent du terrain. Mais l'histoire prouve que leurs sondages sont rarement très exacts.
Oui.
Il n'empêche qu'il ne faut pas non plus les négliger, parce que venant du terrain, ils obtiennent souvent quand même des informations précieuses. Et quand ça recoupe ce qu'on peut avoir par les instituts de sondage, on s'aperçoit que finalement la présence de Bayrou au deuxième tour, donc l'élimination de Royal, parce qu'il ne semble pas que Sarkozy soit à la portée de Bayrou au niveau des chiffres, ne soit plus déjà simplement une hypothèse d'école. Mais ce qui est très intéressant dans les sondages, je crois vous l'avoir dit déjà une fois, ce sont des sondages qualitatifs, c'est-à-dire non pas les sondages en intention de vote, mais les sondages concernant l'opinion que les gens ont de la personnalité d'un des candidats ou de son action ou telle proposition. Et ce qui est très frappant, c'est un sondage qui est apparu aujourd'hui ou hier, dans lequel il apparaît, enfin il y a deux types d'éclairages qui sont très intéressants.
Oui.
Il y a à peu près 70% des gens qui pensent que Sarkozy va être élu, et il y a 30% seulement des gens qui le souhaitent. Alors c'est quand même une grande différence. Et il y a un deuxième élément qui pourrait être l'élément décisif, c'est que au point de vue de la personnalité, celle qui est préférée par les Français est celle de Bayrou. C'est-à-dire que sa personnalité est supérieurement, enfin, est mieux ressentie que celle de Sarkozy, et mieux que de Ségolène Royal. Alors, il y a deux hypothèses. Si les Français votent uniquement sur des choix politiques, là, les poids politiques des candidats bien affirmés dans leur camp, comme par exemple Ségolène Royal et Sarkozy, jouera à fond. Si maintenant, ce que je crois personnellement, pour l'expérience, ça ne veut pas dire que je le souhaite en général,
mais
j'ai constaté que d'une façon assez régulière, la personnalité des candidats influe beaucoup sur le vote. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'opinions en commun avec un candidat, sans être pour autant totalement hostile, mais qui aimant bien sa personnalité, votent pour lui. Donc si cette règle, qui est assez souvent respectée, se vérifie une fois de plus, on risque fort, en effet, d'avoir un deuxième tour Bayrou ou Sarkozy. Et dans ce cas-là,
il y a même des gens sur H-Man, là qui me crient là par la tête là via MSN. Là, ils veulent absolument que je vous dise que Le Pen est même considéré pour le deuxième tour.
Ah oui, mais ça c'est une des possibilités aussi. Oui,
oui.
Bien sûr. Ah ben on n'en avait pas parlé, vous m'aviez pas posé la question, donc je pourrais demander à ce que vous m'aviez demandé. Mais
exact.
Il va de soi que, oui tout à fait, Jean-Marie Le Pen peut parfaitement être au deuxième tour. Il est plus haut qu'il n'a jamais été dans les sondages à la même date. Il est Alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est que les instituts de sondage font tous, ça c'est bien connu, des redressements. C'est-à-dire qu'il y a ce qui sort en brut, comme ils disent, c'est-à-dire les chiffres réels, sinon réels, du moins ceux qu'ils obtiennent par leurs enquêtes, et ensuite ils les redressent, c'est-à-dire ils les rapprochent de la probabilité qu'ils ont eux-mêmes estimée. Et figurez-vous que Jean-Marie Le Pen, en brut, sort aux environs de 6 à 7% seulement.
Oh.
Et dans les sondages, il est installé à 14 ou 15%.
Spécial.
Alors, bon, il y a donc déjà des redressements. Cela étant dit, avec la même méthode de redressement, il était en dessous en 2002. Donc, il n'est absolument pas impossible qu'il soit au deuxième tour. D'autant plus que le deuxième tour risque fort de se jouer autour de 20 points. Et c'est d'ailleurs, vous le savez, Jean-Marie Le Pen l'a dit lui-même depuis le début. C'était sa prédiction. Il disait, tout se jouera aux environs de 20 points et je serai au deuxième tour. Alors, c'est effectivement une des possibilités. Et ce qui se joue actuellement, le début de notre conversation, est une illustration de ce qui se passe. Car l'objectif de M. Sarkozy, c'est d'essayer de garder les 3 ou 4 points qui sont censés être des électeurs de Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, par les attaques qu'il fait contre Sarkozy, essaye de les récupérer à son profit. Donc c'est une petite frange d'électeurs, enfin 3% ce n'est pas négligeable, mais enfin c'est une frange d'électeurs qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et si ces électeurs quittaient par exemple Sarkozy, ça risquerait fort d'amener Jean-Marie Le Pen au deuxième tour.
On nous demande, on vous pose cette question-là de la part de Laurent, concernant une fameuse candidature de, et j'espère ne pas écorcher un peu trop le nom de famille, le Gérard Schivardi ou quelque chose comme ça?
Oui, Schivardi.
Schivardi, oui.
Bah, écoutez, Schivardi, c'est un candidat de gauche, d'extrême gauche.
Est-ce que c'est sérieux?
Il s'est présenté comme le candidat des maires et le Conseil constitutionnel, ou le CSA, je ne sais plus exactement, où le CSA lui a intimé l'ordre de ne pas se présenter comme tel, puisqu'il y a quand même 38 000 maires en France, il n'a eu que 500 et quelques signatures, donc il est le candidat de maire. Donc il a rectifié son matériel électoral dans ce sens. Enfin, bon, c'est un candidat que je qualifierais de marginal, qui n'a pas de poids politique.
Et vous croyez que c'est une blague?
Ah non, ce n'est pas une blague, non, c'est un...
Ce serait vraiment une démarche sérieuse, là, c'est très sérieux comme démarche, là.
Bah, c'est-à-dire que c'est le candidat d'un groupuscule trotskiste qui s'appelle le Parti des Travailleurs, qui avait réussi, je crois bien qu'il s'était... C'était M. Gluckstein qui s'était présenté la dernière fois en 2002. Je ne me souviens plus s'il avait eu les signatures ou pas, mais enfin, bon, ce sont des gens qui font autour de 1% des voix, donc... Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux, après tout chacun est libre de défendre son précaré, mais ça n'est pas sérieux sur le plan du poids électoral.
On nous relance là, concernant Le Pen qui a fait cette semaine des attaques à l'endroit de Sarkozy qui a complètement, enfin ça c'est toujours selon cet auditeur, éclipsé Royal. Vous êtes d'accord avec ça?
Ben, éclipsé.
Éclipsé dans le sens... Oui.
C'est assez vrai dans la mesure où tout a tourné autour des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a accusé, d'abord dans un premier temps, Nicolas Sarkozy d'être le candidat de l'immigration, alors que lui, Le Pen, se qualifiait de candidat du terroir. Et il a ajouté qu'il n'aurait jamais dit cela si M. Sarkozy n'avait commencé lui-même par se qualifier de sans-mêlé. Tout ceci, c'est un petit peu de l'agitation un peu stérile, ça n'a pas un très grand intérêt, mais enfin, ça a un intérêt électoral dans la mesure où Sarkozy, c'est un petit peu l'illustration aussi de ce qu'on disait précédemment en ce qui concerne les gens qu'on essaye d'attirer à soi. Il a une démarche curieuse, Sarkozy, c'est-à-dire qu'il essaye d'avoir un petit peu de ratisser un peu de tous les côtés, mais c'est assez contradictoire, parce que s'il se présente comme le candidat de l'immigration, il y a aussitôt les gens qui sont issus de l'immigration maghrébine ou d'Afrique qui lui disent « Mais alors, pourquoi vous nous avez traité de racailles, de karcher, etc. ?» Donc finalement, ça n'a pas été une très bonne opération pour lui. Et Le Pen ne l'a pas raté, puisque en quelque sorte, il l'a accusé de ne pas avoir de légitimité. Bon, tout ça est un peu ridicule, parce que Sarkozy est né en France, et ce n'est pas parce qu'il a un père hongrois que ça change quoi que ce soit. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, pendant les périodes électorales, on s'attend à tout.
Hein. Oui, effectivement. On a abordé le sujet concernant la peine de mort ce matin, oui, ici sur rocket.com, Wake Up le Show. Et oui, c'est drôle, ça tombe bien, M. Reichmann. Il y a un certain procès de Boden ou quelque chose comme ça. Là,
oui,
les, vous avez entendu.
Boden ou Boden, oui. C'est
vous avez
un... Oui.
Vous avez suivi un peu l'histoire.
Oui, enfin, c'est une affaire affreuse. Hein. C'est un type qui était sorti de prison, qui avait déjà été condamné pour viol. Il est sorti de prison, il a récidivé aussitôt, il a tué deux ou trois jeunes filles. Bon, c'est oui. abominable. En plus, il se comporte à l'audience d'une manière agressive, enfin injurieuse, et pour les familles, c'est extrêmement douloureux. Alors effectivement, on peut se demander dans des cas pareils ce qu'il faut penser, mais enfin c'est un débat qui dépasse évidemment le cas de ce personnage, ce sinistre personnage, c'est tout le débat sur la peine de mort. Par contre, personnellement, je n'ai pas d'opinion vraiment arrêtée sur le sujet, c'est très délicat, mais enfin ce que je pense d'une manière aussi mesurée que possible, c'est oui. que il aurait peut-être fallu, sans l'appliquer, au moins la maintenir, ne serait-ce d'ailleurs que dans pour des périodes de guerre. Parce qu'il peut y avoir des routes de guerre ou d'état d'urgence, il peut y avoir des périodes où il deviendrait extrêmement difficile de rétablir l'ordre, etc. Bon, cela dit, c'est un vaste débat et on ne peut pas le trancher en quelques phrases.
En quelques phrases, je suis bien d'accord, sauf que votre sentiment premier, c'est pas justement de ramener cette, excusez-moi le terme, ça c'est mon expression, cette bonne vieille chaise, là, histoire de rafraîchir les esprits.
Écoutez, le débat est complexe parce que, bon, il est certain que la peine de mort...
Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point il est complexe, M. Reichmann?
Bah, jusqu'au point où l'appliquer est toujours, pour une société, quelque chose de qui l'installe dans un certain type de relation, et donc c'est parfois un peu difficile, mais d'un autre côté, une société a le droit et le devoir de se défendre. Alors, est-ce qu'elle se défend mieux en instituant la peine de mort? Ça... J'avoue que je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que la situation actuelle n'est pas non plus satisfaisante, parce qu'on a voulu dire qu'il y aurait des peines incompressibles, mais on sait très bien qu'elles ne le sont pas. Une peine incompressible, c'est aussi condamner quelqu'un au désespoir définitif, donc ça en fait quelqu'un de dangereux. Et bon, finalement, il y a beaucoup d'États qui ne sont quand même pas des États de sauvages et qui ont maintenu la peine de mort. Je pense aux États-Unis.
Oui. C'est certain.
La situation au Canada, quelle est la situation?
La situation au Canada, c'est qu'il n'y en a plus du tout et on préfère, c'est-à-dire le système judiciaire, bien sûr de connivence avec le gouvernement, préfère garder sous les barreaux violeurs, meurtriers, de leur donner des sentences bonbons qu'on appelle, par exemple aujourd'hui, je vous donnerai cet exemple, un chauffeur ivre. Oui. Avec une bière entre les cuisses, a fauché deux individus en motocyclette, oui. Deux motocyclettes, c'est ça exactement. Et oui. Il a gagné 4 ans de peine pour avoir justement tué deux personnes.
Oui, ben ça c'est une indulgence évidemment.
4 ans. Si je calcule que en moyenne on peut vivre jusqu'à 85 ans, ben il a fauché deux vies fois 85, ce qui veut dire 170 ans de vie possible, les deux ensemble, parce que c'est un couple, ok?
Alors, oui, bien sûr. Oui, non, mais il y a beaucoup d'arguments. Bon, dans ce cas-là, on n'aurait certainement pas, il n'aurait pas été condamné à mort, parce que ça fait partie des choses qui, en général, ne justifient pas une condamnation à mort, même si ce qu'il a fait est absolument inacceptable.
Pourquoi ça ne justifie pas une condamnation à mort?
Parce que l'habitude n'est pas de condamner à mort, quels que soient les pays, pour des actes de ce type. C'est plutôt pour des actes vraiment abominables, des crimes sordides, des choses préméditées, etc.
Okay.
Mais quoi qu'il en soit, le problème que nous avons les uns et les autres à examiner, c'est comment faire en sorte que notre société, nos sociétés se défendent face à des gens de plus en plus violents. Et je pense que l'inadaptation générale de notre système de défense,
oui.
au sens large du terme, défense extérieure, défense intérieure, défense judiciaire, défense pénale, est inadaptée à l'état actuel du monde. J'ai vu un chiffre français qui m'a tout à fait effaré, non pas sur le fond parce que je m'en doutais bien, mais figurez-vous qu'il y a chaque année 80 000 mineurs en France, âgés de 13 à 15 ans ou un peu plus, qui ont affaire à la justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
C'est
80
fou.
000 mineurs.
C'est fou. C'est complètement fou.
C'est fou. Et ça. Alors, et on nous explique dans le même temps que l'insécurité recule. Alors je suis désolé, mais quand vous avez 80 000 jeunes qui commettent des délits et qui empoisonnent l'existence de leurs concitoyens, qu'on ne peut pas dire que l'insécurité recule. Et c'est ça qui est le fond du sentiment des gens, parce que la très grande criminalité, c'est quelque chose à laquelle, par bonheur, on n'a pas affaire individuellement très souvent, mais sauf par accident. En revanche, les délits quotidiens, ce qu'on appelle, ce que je crois que c'est Monsieur Chevènement le premier avait appelé ça des incivilités. C'est un mot vraiment très, très indulgent. Il ne s'agit pas d'incivilité. Ce sont des petits voyous, des petits barbares. Il n'y a pas d'autre mot. Certes, ils sont très jeunes. Ils ont aussi des excuses. Tout n'est pas de leur faute. Mais enfin, en attendant, c'est des jeunes qu'il faudrait reprendre en main et ne plus les lâcher. Et donc, 80 000, c'est absolument effarant. Et là, on est vraiment dans un système où la société n'est plus apte à se défendre. La plupart de ceux, d'abord, ils sont trop jeunes pour être en général mis en prison, et même il n'y a pas de structure qui permette de les encadrer. Et par conséquent, il faut que nous repensions tout ça. Et vous savez, le futur président de la République française, ou la future présidente, aura une tâche quasiment mission impossible. Tout à l'heure, j'avais une réunion avec des personnes qui connaissent assez bien les choses et qui réfléchissaient à cela, et qui me disait, si tel ou tel est élu, il ne s'en sortira pas. Il parlait de Sarkozy, en l'occurrence.
Ah, oh, ok.
Et ce sont des gens qui sont dans les affaires, etc., donc qui ont quand même une vision assez large des problèmes, et ils se rendent bien compte que la France est un véritable chaudron qui est en train de fumer. Il se pourrait bien que le couvercle saute avant longtemps. Certains ont même lancé l'idée, enfin la supposition, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs une des dernières fois, que si Sarkozy était élu, la nuit même, il y aurait des émeutes. Bon, ça n'est pas impossible, comme il est impossible qu'elles se produisent plus tard.
Mais je vous
quoi
pousse...
qu'il en soit, il y a une situation explosive. Et ça, quand une situation est explosive, il est bien rare qu'elle n'explose pas.
Je suis tout à fait d'accord. Et je vais vous pousser une hypothèse, ok, que j'ai fait avec en compagnie bien sûr des auditeurs. Et je me disais que, par exemple, au Canada, pourquoi la peine de mort n'existe plus, ou enfin qu'elle a été abolie, je devrais dire, c'est je crois, ok, et c'est vraiment c'est ma pensée pure et dure, mais bon, hypothétique toujours, que c'est de connivence avec le, comme je vous ramène ceci, que la justice et le gouvernement travaillent ensemble dans le but de faire de l'argent. Vous allez peut-être dire que je pousse un peu loin l'idée, mais il reste quand même que qui fait de l'argent lorsqu'il défend, par exemple, un violeur, un meurtrier ou autre truc? Ben, c'est l'avocat qui va représenter l'individu, et c'est tout à son avantage, à cet avocat, au juge, au système judiciaire, de ne pas passer ces gens-là sur la chaise électrique, ou encore de leur donner une éjection, car ça leur en fait plus, et ça permet aussi de construire plus de prisons, et ça, faut pas se le cacher, c'est de l'argent.
Là, vous évoquez finalement quelque chose qui est bien connu, et qui est ce qu'on appelle, d'une façon un peu pédante, les intérêts systémiques.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez des systèmes qui finissent par ne tourner que pour eux-mêmes.
Voilà.
C'est-à-dire que un système bureaucratique produit des bureaucrates, lesquels produisent des règlements qui eux-mêmes, pour leur application, impliquent l'engagement de nouveaux fonctionnaires, etc., etc. Ça, c'est le cas de la France, par exemple. On est exactement dans ce système. Et en ce qui concerne la justice, on peut effectivement, sans aller même trop loin, indiquer que, bon, d'une certaine manière, la justice travaille pour se créer des clients, mais n'oublions quand même pas une chose, c'est que bon, le refus de la peine de mort, c'est quand même quelque chose qui, dans le siècle, à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, est un élément qui a pris une certaine ampleur, et si vous voulez, l'intérêt systémique me paraît moindre que la pression générale pour l'abolition de la peine de mort.
Mais Monsieur Reichmann, pourquoi de plus en plus on entend de la part des citoyens et citoyennes ce message? On a l'impression que la justice ne sert que ses propres intérêts. C'est vrai,
vrai. J'ai fait une émission sur Reichmann TV il y a quelques jours avec un des grands spécialistes français, un journaliste très réputé qui s'appelle Pierre Français, qui est le chroniqueur judiciaire d'Europe 1, et qui effectivement considérait que, nous avons considéré ensemble, car je lui ai posé la question, mais je lui ai également exprimé mon opinion, que les magistrats finalement constituent un corps qui n'accepte absolument pas la critique. ce sont des gens qui s'auto-congratulent ou en tout cas qui refusent de se remettre en question.
C'est ça.
Et ça, c'est extrêmement grave parce que quand vous avez un corps de métier qui est chargé de juger les autres et qui n'accepte jamais d'être jugé lui-même, ça devient un vrai problème. Alors, on a eu une illustration passionnante de cette situation lors de la commission parlementaire qui s'est réunie pendant toute la première moitié de l'année 2006 à l'Assemblée nationale à la suite du scandale d'Outreau. Vous avez entendu parler de cette affaire d'Outreau où des innocents ont été maintenus en prison préventive pendant des années avant d'être finalement, au terme de deux procès d'assises, complètement blanchis. Eh bien, moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, dans la mesure de mes possibilités, parce que ça prend du temps, les séances de la commission d'Outreau. Cette commission était composée donc de parlementaires de tous les bords, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de domination politique de cette commission. D'ailleurs, elle était à la tête dirigée par un socialiste, qui était M. Valigny, et le rapporteur était M. Houillon. M. Valigny est socialiste, M. Houillon est UMP.
Oui.
Mais ils ont cette caractéristique d'être l'un et l'autre d'anciens avocats.
Ah, c'est non.
On a vu pour la première fois, là, les avocats se sont régalés, car ils ont, non pas jugé, mais pratiquement mis en accusation un certain nombre de magistrats. Et ça, les magistrats ne l'ont pas supporté. Et ils ont eu tort, parce qu'ils ont commis tellement d'erreurs dans cette affaire qu'ils auraient dû au moins faire profil bas. Alors, ils ont fait, évidemment, espèce de, pas de contrition, mais
oui.
ils ont été modestes, disons, dans leurs affirmations. Mais enfin, en attendant, ils ont quand même réussi à faire pression pour que toutes les conclusions de cette commission soient pratiquement réduites à néant, et le projet de loi
spécial
issu de cette commission ne reprend pratiquement rien. Donc il n'y aura pas de réforme de la justice, et la justice pourra continuer à faire des erreurs judiciaires en toute impunité.
Parce que je pourrais vous parler encore de cette histoire avec Sophie Gavreau, c'est bien ça, retrouvée, qui a été retrouvée là, il y a 23 ans, retrouvée mercredi soir, c'est ça, dans la banlieue de Nantes, c'est ça?
Elle n'a pas été retrouvée à ma connaissance. À moins qu'elle ait été retrouvée.
Le cadavre a été localisé, dis-je.
D'accord. Je ne savais pas parce que j'étais en réunion une grande partie de la journée,
voilà.
Donc je n'ai pas eu d'informations, mais enfin, il est évident qu'on était assez pessimiste sur son sort parce qu'on avait retrouvé des vêtements à elle, non loin de l'endroit où sa voiture avait été brûlée.
C'est ça.
Bon, écoutez, on est face à c'est un crime crapuleux, manifestement.
Il va avoir quoi? 10, 15 ans? Le criminel va avoir quoi? 10, 15 ans? Pour avoir enlevé la vie de quelqu'un.
Il aura, tout dépend des circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Mais enfin,
c'est ça, mais c'est ça le problème, Monsieur Reichmann. Monsieur Reichmann, c'est ça le problème. Vous venez de mettre le doigt en plein sur le bobo. Selon les circonstances.
Ah ben ça, c'est un principe judiciaire. Hein.
Ça
n'est pas, moi, je ne l'ai pas inventé. Et
je sais.
Je ne suis pas non plus toujours d'accord avec les jugements qui sont pris. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que la justice. La justice est considérée comme trop indulgente, mais en réalité, ça n'est pas si vrai que ça. La justice est assez sévère, mais elle est encadrée par toute une série de dispositions qui ne lui permettent pas toujours de prendre des décisions qui s'imposent. Et d'autre part, n'oubliez pas que dans une affaire comme celle-ci, une affaire criminelle, c'est un procès d'assises. Donc ce ne sont pas des magistrats, ce sont des jurés qui vont juger, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jurés sont en général moins sévères que les magistrats. Il arrive que ce soit le contraire, et le plus souvent, les magistrats appliquent la loi avec plus de fermeté que les jurés, parce que les jurés, justement, tiennent compte des circonstances. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est certainement un crime crapuleux, et je crois qu'il faut vraiment être
la
plus extrême sévérité dans ce genre d'affaires.
Je vous le demande, je trouve ça tellement spécial d'être capable, à titre de juge ou d'avocat, de défendre les criminels. Nous, ici, on a en ce moment un procès à Montréal qui est hautement médiatisé. Il s'appelle l'individu est d'origine rwandaise, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est bien ça, c'est Désiré Munyanyesya, et il a été reconnu coupable de crimes de guerre au niveau du génocide du Rwanda. Et là, on s'offusque, le juge s'offusque, parce qu'il y a quelqu'un, un détenu, qui lui a foutu, mais une raclée, là, OK, là, il était en chaise roulante le lendemain, qui était supposé de se présenter. Et le juge s'offusque, mais ça n'a pas de sens, il faut qu'il ait un procès juste et équitable. C'est drôle, M. Reichmann, je veux pas être de type très violent à vos yeux, mais je lui aurais cassé les deux jambes à cet individu-là.
Bah écoutez, heureusement qu'il ne vous a pas rencontré.
Voilà, Exactement.
Je lui conseille même vivement de vous éviter.
Oui, plusieurs kilomètres.
Non, quoi qu'il en soit, bon, s'il s'est fait casser la gueule, c'est ce qu'on appelle la justice immanente.
Oui. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais je comprends pas. Il y a pas une morale ou enfin il y a pas des valeurs que la justice pourrait avoir nécessairement. Il faut vraiment qu'elle soit noire ou blanche. C'est ce que ça donne comme impression aux citoyens.
Bah écoutez, moi, franchement je ne crois pas qu'elle soit noire ou blanche parce que elle est quand même parfois trop sévère aux yeux de certains, pas assez aux yeux d'autres. Mais je pense surtout que le fond du problème, ça n'est même pas la justice, parce que la justice arrive en bout de chaîne. Ce qu'il faudrait, c'est que nos sociétés se défendent beaucoup mieux. C'est ce laxisme généralisé qui fait qu'on en arrive à des comportements absolument invraisemblables, qui sont des comportements criminels, des comportements irresponsables pour certains, des comportements totalement vicieux pour d'autres, et tout ça, si vous voulez, c'est parce que nous vivons dans une société trop tolérante
voilà.
Que de tels comportements peuvent se développer. Alors la justice arrive en bout de chaîne, elle a évidemment fait son travail et c'est à elle de sanctionner, mais
c'est certain,
il
faudrait
beaucoup mieux que nous ne laissions pas de tels événements se produire parce que les gens qui sentiraient que la société ne permettra pas ce genre de choses-là, eh bien, il vaudrait mieux qu'on agisse ainsi. Et pour vous donner un exemple que chacun peut constater, bon, actuellement, en France, quelqu'un qui se défend, qui est en légitime défense, face à un agresseur, ou un cambrioleur, ou autre, a toutes les chances d'aller lui-même en prison.
Oh.
Alors que ça n'est pas... Et l'agresseur, lui, a les meilleures chances de ne pas y aller. C'est comme ça. Mmh. Actuellement, la tendance judiciaire en France, policière et judiciaire, mais surtout judiciaire, c'est de considérer que la légitime défense est toujours discutable. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Alors, je ne suis pas d'avis qu'il faille tirer dès qu'on entend un bruit, parce qu'on peut tuer ses proches. Mais il est évident qu'il y a eu des cas récemment qui étaient scandaleux. On a vu des gens qui avaient été agressés dans leur maison, dans la banlieue parisienne, et qui s'étaient défendus. Je crois qu'un des cambrioleurs avait été tué, mais le gars qui s'était défendu et qui avait défendu sa femme a été emprisonné. Il faut quand même le savoir. Hein. Alors, c'est absolument invraisemblable, alors que tous ces gens ont, comme on dit, des garanties de représentation, c'est-à-dire c'est des gens qui ne vont pas disparaître dans la nature. Donc la détention provisoire est absolument scandaleuse, mais les magistrats invoquent à ce moment-là le trouble à l'ordre public. Vous comprenez, c'est très facile. C'est une définition fourre-tout qui permet justement de fourrer tout le monde en prison. Et c'est extrêmement dangereux, et nous vivons dans une société qui marche à l'envers, puisque on met les honnêtes gens et ceux qui se défendent en tôle,
voilà.
Et les autres, on leur trouve toutes les excuses, et en général, ils se baladent à l'extérieur en liberté.
Donc, c'est exact.
Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, là.
Monsieur Reichmann, je suis content de vous avoir entendu vous exprimer sur ce point, sur ce sujet qui est très chaud et qui doit se prendre avec des gants blancs,
ah,
monsieur.
Oui, c'est un sujet difficile.
C'est délicat. Je suis peut-être un petit peu plus, je devrais vous dire, expéditif que vous. Je dirais que c'est l'expérience qui a raison de ce que vous nous dites là. Moi, je sais pas, je suis jeune, je suis plus un peu, comment dire, prompt.
Vous avez la vigueur de votre âge, mais je pense surtout que ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des solutions qui permettent surtout à la société de se défendre vraiment. Mon souci dans ce genre d'affaires, ça n'est pas tellement de faire montre de sa force ou de faire montre de son énergie ou de sa sévérité, parce que souvent ça n'est qu'illusoire, mais c'est surtout de faire de la prévention, et la meilleure des préventions, comme je le disais à l'instant, c'est quand même d'empêcher que de tels personnages qui violent systématiquement les lois, qui tuent, qui violent, etc., se considèrent comme assurés, sinon de l'impunité, du moins d'une certaine impunité. Et ça, c'est quand même le propre d'une société déclinante.
Monsieur Reichmann, on se reparle la semaine prochaine.
On se reparle la semaine prochaine.
Super.
Là, portez-vous bien.
Vous aussi.
À bientôt.
Au revoir, bon week-end.
Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Claude Reichmann que vous venez tout juste d'entendre. Oh, breaking news, mesdames, messieurs.